VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. 13 militaires français de l'opération anti-djihadiste Barkhane ont trouvé la mort au Mali dans la collision accidentelle de deux hélicoptères annoncée aujourd'hui la présidence française. Il s'agit de l'un des plus lourds bilans humains essuyés par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983, qui avait fait 58 morts. L'accident est survenu lundi soir dans le Liptako, dans la région de Menaka, aux confins du Mali, Niger et Burkina Faso, pendant une opération de combat. Un hélicoptère de combat Tigre est entré en collision avec un hélicoptère de manœuvre et d'assaut Cougar, selon l'état-major des armées françaises. Les États-Unis ont rappelé leur ambassadeur au Soudan du Sud après l'échec de la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les délais prévus, a annoncé hier le département d'État Eki Abadou.
Nous réexaminerons notre relation avec le gouvernement du Soudan du Sud, a prévenu dans un tweet le secrétaire d'État Mike Pompeo. L'ambassadeur Thomas Huchek est rappelé pour consultation liée aux échecs des partis à former un gouvernement intérimaire d'union nationale, a déclaré Morgane Ortagus, la porte-parole de la diplomatie américaine. Le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar avaient jusqu'au 12 novembre pour former un gouvernement d'union, mais ont échoué et se sont donné un nouveau délai de 100 jours. Dans une menace à peine voilée à la mi-novembre, Tibor Nagy, chargé de l'Afrique au département d'État, avait prévenu que les États-Unis ont de nombreux outils à leur disposition et n'hésiteront pas à les utiliser. Depuis décembre 2013, les deux frères ennemis, Salva Kiir et Riek Machar, ont conclu de nombreux accords de paix qui n'ont jamais été respectés. Ce conflit a fait quelque 380 000 morts et contraint 4 millions de personnes à fuir leur foyer.
Le premier tour de la présidentielle en Guinée-Bissau s'est tenu à la régulière, estiment les observateurs. Reste à en connaître les résultats attendus dans la crainte d'un de ces coups de force dont le pays est coutumier. Les Bissau-Guinéens ont voté dimanche pour choisir leur prochain président parmi 12 hommes. Les résultats provisoires devraient être annoncés demain mercredi après la remontée des chiffres des régions et des îles. Un second tour hautement probable est prévu le 29 décembre. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a estimé aujourd'hui que la solution en Algérie, théâtre d'un mouvement de contestation contre le pouvoir depuis 10 mois, réside dans le dialogue démocratique et le respect de la liberté de manifester. Depuis le 22 février, des milliers d'Algériens descendent chaque semaine dans les rues pour demander le départ du régime qui dirige le pays depuis son indépendance en 1962. La mobilisation n'a pas faibli après la démission du président Bouteflika en avril et les manifestants réclament le départ de toutes les figures du régime, dont le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Sarah. Il refuse aussi la tenue d'une élection présidentielle le 12 décembre, organisée par le pouvoir en place et qui, pour eux, ne peut offrir en l'état des conditions de transparence suffisantes. En Afrique, ou en RDC, la colère des émeutiers était dirigée contre les forces des Nations Unies, accusées de ne rien faire pour leur sécurité dans l'est du pays. Ils ont envahi et mis le feu hier à un camp de l'ONU à Beni, après que les habitants ont dénoncé un nouveau massacre de civils attribués au groupe armé des ADF, ainsi que ce qu'ils ont appelé l'inaction des casques bleus. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint hier à Beni Nikeze Kibel-Oka. Il est le directeur de publication du journal Les Coulisses.
Depuis 3-4 jours, on accuse les Nations Unies, la MONUSCO, d'être inactive, de ne pas intervenir dans les opérations, de ne pas appuyer les FRDC dans les opérations au front. Alors, la population a appuyé les élections de demander le départ de la force onusienne. Bon, aujourd'hui, ça a dégénéré avec la tuerie de 8 personnes dans la nuit de dimanche à ce lundi.
Et comment est la situation en ce moment?
Toute la journée, la situation était très très tendue. Les manifestants ont réussi à incendier l'hôtel de ville de Beni. Après, ils sont descendus à l'une des bases de la MONUSCO. Ils ont réussi à entrer et à piller certains effets, à brûler même des véhicules. Et ils ont été contenus quand ils sont arrivés au niveau de la deuxième base qu'on appelle Madiba. Il faut dire que toute la journée, la ville a été paralysée et que vers les 16h, 17h, le calme semble revenu, mais on ne sait pas comment sera demain.
Alors, on a l'impression aussi que cette situation est favorisée par les autorités congolaises. Hein, quand on écoute Jeanine Mabunda, qui est la présidente du Parlement congolais, elle s'est interrogée sur le rôle de la MONUSCO au Congo.
Le problème, c'est que c'est un peu en retard qu'on s'interroge sur ce rôle-là. Il faut dire aussi que la déclaration de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, qui a dit que la MONUSCO ne participait pas à l'opération, ça aussi, ça n'a pas été bien apprécié. Au fait, de part et d'autre, la communication ne semble pas être bien maîtrisée, parce que lorsqu'on déclare cela et qu'il y a mort d'homme, naturellement, la population ne comprend pas pourquoi la MONUSCO peut être à Béni et on tue devant elle sans réagir. Naturellement aussi, lorsque la présidente de l'Assemblée nationale déclare cela, ça donne un peu de la force à la population qui manifeste et qui demande avec violence le départ des troupes de la MONUSCO.
Si les populations sont fâchées contre l'inaction de la MONUSCO, pourquoi elles s'en prennent à la mairie?
Alors il faut dire que d'abord la région de Béni est infectée de groupes armés. Rien n'exclut que dans la population il y ait eu des groupes armés, notamment des Maïmaï qui sont entrés, parce qu'il n'y a pas de raison que la population puisse s'en prendre au symbole de l'État. Il n'y a vraiment aucune raison.
Le journaliste congolais Nikèze Kibel Oka, c'était hier à Béni. Au moins 4 manifestants ont été tués lundi lors de ces émeutes anti-ONU dans Béni, dans l'est de la République du Congo, où les autorités ont annoncé des opérations militaires conjointes avec les casques bleus face au massacre civil. À Kinshasa, la présidence de la République a annoncé la reprise d'opérations militaires à l'issue d'un conseil de sécurité nationale présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La présidence a également annoncé l'installation d'un quartier général avancé des forces armées congolaises, et ce sera à Béni. Au Cameroun, le principal opposant Maurice Kamto et son parti ont appelé hier à boycotter les législatives et les municipales de février prochain. Ils dénoncent par la même occasion l'organisation de ces élections alors qu'une partie du pays reste le théâtre d'un conflit meurtrier. Le point avec Irénée Manoubo.
Le mouvement de la Renaissance du Cameroun MRC appelle les Camerounais à rester chez eux le 9 février 2020 pour ne pas cautionner les élections qui ne ramèneront pas la paix dans notre pays, a déclaré M. Kamto. Il souhaite que tous les partis politiques de l'opposition, la société civile et autres forces religieuses suivent son appel à boycotter ce double scrutin. Organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, qui plus est des élections locales sans avoir rétabli la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est donner le message que les populations de ces régions ne sont pas des Camerounais, à dénoncer M. Kamto. Pourtant, mercredi, il avait annoncé la mise en place d'une commission chargée des investitures. Le parti était persuadé que dans un sursaut patriotique, le régime prendrait en compte les exigences légitimes des Camerounais, a déclaré M. Kamto, ajoutant que malheureusement, le régime s'est enfermé dans son mépris habituel.
Des dizaines d'Irakiens ont été blessés aujourd'hui à Bagdad et dans plusieurs villes du sud de l'Irak, paralysées par des manifestants qui bloquent l'administration et route pour obtenir la chute du pouvoir. La journée d'aujourd'hui semble marquer un tournant. Les violences qui ont déjà fait depuis 2 mois environ 350 morts ont gagné des villes jusqu'ici épargnées par le mouvement de contestation et se prolongent désormais en journée là où elles ne survenaient que la nuit. 17 personnes ont été blessées dans le centre de Bagdad, selon des médecins, dont 3 dans un état critique, après des tirs de grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Le démocrate qui mène l'enquête en destitution visant le président Donald Trump ici aux États-Unis, au Congrès américain, a affirmé lundi que les preuves des méfaits commis par le président étaient claires et annoncées qu'il remettrait son rapport en décembre, ouvrant ainsi la porte à la prochaine étape de cette procédure explosive. Après les auditions publiques historiques de 12 témoins et une quinzaine de dépositions à huis clos, les commissions de la Chambre des représentants en charge de l'enquête sont en train de préparer un rapport qui rassemble les preuves réunies jusqu'ici, a indiqué Adam Schiff dans une lettre à son groupe parlementaire. Jean-Roger Billon à ce micro, fin de ce journal. Le prochain, ce sera dans 50 minutes et vous retrouverez Harry Francis, bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.